Donc Julien, la charpente, on peut l'appeler aussi.
Non, pas en feu, mais on va éviter.
Ah, bon, d'accord. Okay. La charpente, c'est pas mal, ça te va bien. Ok, j'ai rien dit. Bon, allez.
Allez, c'est parti.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit...
T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Julien Charpentier.
Bonjour.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, celui qui monte nos enregistrements plus vite que son ombre, celui qui fait la peau à toutes les bafouilles au point qu'on pourrait l'appeler le nettoyeur de bande. Bonsoir Alain.
Mais pas toujours, hein, il fait pas toujours ça.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on va parler de Sans un bruit numéro 2. La thématique reste la même que dans le premier volet. Une famille doit échapper aux griffes de monstres hypersensibles au son. Un pas un peu lourd, une voix qui s'élève, un craquement, et bim, un alien débarque et vous fauche sur le champ. L'histoire débute quelques secondes après la fin du premier film. Les membres survivants de la famille Abbott ne sont plus en sécurité dans leur maison. Contraints de quitter les lieux, ils se mettent alors en quête d'un nouvel endroit à l'abri du danger et découvrent au passage qu'ils ne sont pas les seuls survivants dans ce monde réduit au silence. Comme le premier épisode, Sans un bruit 2 est réalisé par John Krasinski et on le retrouve à nouveau de l'autre côté de la caméra pour quelques scènes de flashback sous les traits de Lee Abbott, le père de la famille. Au casting, on retrouve aussi Emily Blunt, Millicent Simmons et Noah Jupe, mais également un nouveau venu, Cillian Murphy. Le premier volet avait fait un gros carton en 2018, 336 millions de dollars au box-office, dont 50 millions après seulement une semaine d'exploitation. Et cette suite semble bien partie pour suivre la même trajectoire. Sorti fin mai aux États-Unis, Sans un bruit 2 a déjà engrangé près de 100 millions de dollars à travers le monde. Mais est-ce que c'est aussi un carton plein chez nos chroniqueurs? Ou bien, pour vous, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi? On ne juge pas mes blagues.
Elles sont très bien.
Marie, vas-y.
Moi, je veux dire frustration.
Ludique.
Constance.
Frustration, ludique, constance. Ok. Je sens qu'il va y avoir un petit peu de fight. Alors, on l'a dit, sorti en 2018, ça a été un véritable carton au box-office. Parmi vous, qui a apprécié le premier film? Juste pour...
J'en fais partie.
T'en fais partie?
Oui, enfin, c'est pas désagréable à regarder, mais en fait, il y a plein de manquements. Voilà.
Moi, j'ai un peu les mêmes critiques sur le premier que sur le deux. Mon mot frustration s'applique aux deux films.
Bah, est-ce que tu veux nous le développer un petit peu?
Je veux bien. Comme ça, personne ne me coupera la parole. Non, mais en fait... Oh, attention.
Attention. Hein.
Attention, mais après, les gens vont dire qu'on se déteste, mais c'est faux. En fait, moi, je disais frustration, parce que c'est un peu comme sur le premier film. Il y a plein de choses que j'aime bien. Je trouve qu'il y a de bonnes trouvailles. Il y a cette menace extraterrestre qu'on ne voit pas trop. On ne sait pas trop ce que c'est exactement. Il y a cette famille qui survit, notamment parce que la fille aînée est sourde. Et du coup, ils se parlent en langue des signes et ça les aide à survivre dans ce monde où il ne faut pas faire de bruit sous peine d'être mangé par ces aliens. Donc ouais, moi je disais frustration, parce que c'est un peu le problème que j'avais déjà sur le premier film, où il y avait plein de bonnes idées. Il y avait cette famille qui avait survécu parce que notamment leur fille aînée était sourde et muette, et du coup ils connaissaient la langue des signes et ça leur permettait d'organiser leur vie. Il y avait plein de trouvailles assez sympas, le fait qu'ils mettaient du sable sur les chemins, ils marchaient pieds nus pour pas faire de bruit, il y avait plein de trucs assez sympas. Et puis on voyait... on voyait très peu la menace, en fait. Et du coup, le film était resserré sur la cellule familiale et sur comment vivre avec des enfants sans faire de bruit. Plein de scènes de la vie quotidienne où forcément, il y a juste du bruit sans forcément parler, mais dans comment essayer de camoufler les bruits de l'environnement, les bruits d'enfants, les bruits de bébés. Il y avait plein de choses intéressantes, mais ça allait pas jusqu'au bout. Et moi, sur la dernière partie du film, j'avais plein de problèmes. Mais bon, on n'est pas là pour parler du premier film. Mais j'ai à peu près la même chose sur ce film-là. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes. Mais il y a une scène d'ouverture qui est... une scène un peu spectaculaire par rapport au premier film, comme je disais, qui était très resserré sur la famille. Donc c'est un flashback avec l'attaque, l'arrivée sur Terre de ces extraterrestres. Donc ça se passe, il y a beaucoup de personnages là pour le coup, ça se passe pendant le match de baseball dans une petite ville donc, où toutes les familles sont là et tout. Et il y a des choses intéressantes. Il y a notamment des scènes qui sont tournées du point de vue auditif ou du point d'audition, enfin je sais pas comment on peut dire, mais voilà, du point de vue de cette fille, de cette jeune fille qui est sourde. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas assez exploité, mais ça apporte quelque chose où vraiment on est privé comme elle d'un des sens et y a c'est tous les personnages qui se mettent à courir et elle, comme elle est de dos, elle voit pas la menace et donc elle a un temps de retard dessus et je trouve que ça marche bien. Sauf que bon, c'est pas assez utilisé. Mais voilà, il y a des scènes comme ça intéressantes. Il y a aussi un petit détail que moi je trouve intéressant, qu'on voit pas forcément dans les films catastrophes ou les films d'horreur. Il y a plein de cadavres en fait, et c'est peut-être un détail, mais c'est un truc qu'on voit pas forcément toujours, surtout dans les films catastrophes. Bon, c'est sûrement aussi une question de classification, mais t'as toujours l'impression qu'il y a plein de morts, mais qu'on voit jamais, du moment que nos 3-4 héros, notre famille survit. Là, en fait, il y a pas mal de morts. Il y a aussi une scène dans un train éventré, là, c'est un an et quelques après, où il y a pareil des cadavres un peu momifiés parce qu'ils sont là depuis un an et quelques mois. Donc il y a des détails comme ça qui donnent un peu corps à cette menace et à c'est quoi ce monde après, parce que dans le premier film vraiment on savait même pas s'il y avait d'autres survivants en fait, on voyait vaguement des feux au loin donc on savait qu'il y avait des gens et donc là ils sortent comme le père est mort dans le précédent film, ils sortent de cette maison dans laquelle ils étaient enfermés, dans ce sous-sol qui était un peu calfeutré pour pas faire de bruit. Et du coup, on voit beaucoup plus la menace. Donc on voit, je pense qu'on en parlera après, on voit beaucoup ces monstres qui ressemblent beaucoup aux claqueurs de The Last of Us. Moi, je trouve que ça fonctionnait mieux quand on voyait pas la menace, mais bon, c'est un truc que je trouve de manière générale dans l'horreur. Je trouve que ça fonctionne mieux sur la mise en scène et la suggestion. Et du coup, après, y a des choses qui marchent bien. Il y a 2-3 scènes un peu Jurassic Park avec ce monstre qu'on voit derrière un mur, derrière un truc, derrière une porte, je sais pas. Mais voilà, ça rappelle un peu le T-Rex ou
le raptor
voilà, dans la cuisine exactement, où on se planque. Et il y a pareil, ce plan. Moi, il y a un plan que j'aime bien, c'est le plan où ils quittent la ferme dans laquelle ils ont vécu pendant plus d'un an dans cette famille. Et ce plan sur leurs pieds, ils s'arrêtent vraiment à la limite du sable et c'est vraiment le pas à franchir. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Donc voilà, il y avait des choses intéressantes. Moi, il y a 2-3 scènes qui m'ont fait un peu me dresser sur mon siège, une mini chair de poule, mais quand même un peu, tu vois, me dire qu'il se passe quelque chose. Et malheureusement, c'est très frustrant parce que c'est toujours abandonné. Moi, vraiment, la bonne idée du film, c'était cette idée de la privation d'essence. Et je trouve qu'il y avait des choses à faire en termes de mise en scène sur ça. Il y a par exemple, sur la fin, une scène intéressante où ils sont dans un studio de radio et donc tout est vitré et il y a cette confrontation en fait, le face-à-face entre cette jeune fille sourde et une des créatures. Et donc elle peut le voir mais elle peut pas l'entendre, la créature peut l'entendre mais pas la voir et je me disais mais en fait il y a plein de choses à faire sur ça et c'est jamais exploité en fait. Alors que sur le point de vue de la mise en scène, il y avait vraiment une espèce de jeu du chat et de la souris à faire autour de ça et c'est toujours des choses qui sont lancées comme ça et qui vont jamais au bout. Donc moi je suis assez frustrée parce que je me dis que c'est quelque chose qui va pas au bout de son potentiel. Donc j'ai quand même passé un bon moment parce que comme je disais voilà, il y a des choses qui fonctionnent mais je me dis c'est quand même une occasion manquée. Puis en plus bon voilà, il y a quelques clichés je me dis c'est dommage de rater ça et d'aller foncer dans le cliché de par exemple quand ils arrivent sur l'île et qu'ils ont ils fuient en voiture avec ce personnage un père de famille qui une fois qu'ils arrivent dans le studio de radio et devant une porte ouverte, en train de dire « Oh, mais où est-ce qu'elle est, la créature? Est-ce qu'elle nous a suivis ou pas ?» Et on sait que tous les personnages qui font des monologues devant une porte ouverte ou une fenêtre ouverte dans un film d'horreur se font happer par la bête ou par la menace et finissent manger. Donc ça tombe comme ça, malheureusement, dans des espèces de clichés, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à jouer, d'où mon mot « frustration ».
Frustration. Donc ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être
beaucoup mieux. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça aurait pu être beaucoup mieux.
Mais je pense qu'en fait, on est pas tant en désaccord que ça, c'est-à-dire que, excusez-moi, moi si je choisis le mot ludique, c'est parce que je vais voir plutôt le verre à moitié plein. Toutes les remarques que tu as faites, en fait, je suis dans l'ensemble relativement d'accord. Le film est un film que je qualifierais de ludique et d'efficace, parce qu'il réussit plein de choses, il en rate au moins autant. Je suis assez d'accord là-dessus. Tous les exemples que tu cites, je les trouve super pertinents, mais en fait, moi, je m'y suis retrouvé, parce que je trouve qu'il y a, et comme tu l'as dit, il y a plein d'idées. Ça fourmille de situations, en fait, qui sont jamais poussées au bout, mais qui vont... T'as l'impression que le scénariste a presque... Parce que le scénariste, c'est John Krasinski, cette fois-ci tout seul. Et t'as l'impression qu'il a presque posé toutes les idées qu'il avait sur le papier sans jamais les emmener jusqu'au bout. Et c'est vrai que normalement, quand tu fais un scénario, tu fais une V1, une V2, une V3, une V4, une V64, où tu écrèmes jusqu'à ce que tu trouves la moelle de ta situation. Et ça, c'est un travail qu'il a assez peu fait.
Alors, il faut savoir qu'il a été annoncé comme réel sur ce film-là assez tardivement et que les studios ont cherché un autre réalisateur pendant tout un moment. Donc, peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui s'occupait de la direction, il aurait pu... plus se concentrer sur...
Il aurait pu apporter quelque chose d'autre, c'est sûr. Maintenant, moi, ce qu'il apporte, alors effectivement, tu l'as cité, je pense qu'il a été globalement traumatisé par The Last of Us et qu'il y a joué, beaucoup, parce qu'on retrouve... sur le premier, c'est vrai qu'on était sur la ferme, et uniquement sur la ferme, donc on pouvait oublier le fait que les monstres ressemblaient un petit peu aux cordyceps de The Last of Us, on pouvait oublier effectivement qu'il y avait... Une adolescente qui détenait en elle la clé pour la survie de l'humanité, ce qui est globalement la même chose, mais là il rajoute en plus le road trip, donc là on peut plus s'en débarrasser, on voit The Last of Us de défiler devant nous pendant tout le film. Par contre, je trouve plutôt très intéressant le développement scénaristique, qui est très simple. Il y a des erreurs qu'il n'a pas commises. Par exemple, une erreur qu'on commet souvent dans une cite, c'est de dire « Ok, alors maintenant qu'on vous a présenté la situation, on va tout vous expliquer par le détail. Qui sont les monstres, d'où ils viennent, comment ils s'entendent avec leur maman, comment ils se nourrissent. » Et il ne va pas dans cette erreur-là. Il introduit simplement, dans la scène d'introduction, « Ok, ces monstres viennent de l'espace. » Et c'est tout. Tu n'en sauras pas plus. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de procéder comme ça. Ensuite, moi, il y a une question que je me suis posée, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est la définition de film... Enfin, est-ce que ce film rentre vraiment dans la définition de film d'horreur ?
Je peux répondre éventuellement. Bien sûr. Alors, en fait, c'est un des points intéressants, je trouve, de cette franchise. C'est que, parce que c'en est une maintenant, avec la suite, et puis apparemment, il y a un troisième épisode qui est en préparation, et qui sera un spin-off, en fait, qui ne sera pas réalisé par Krasinski.
Par Jeff Nichols.
Jeff Nichols, c'est ça,
voilà. Sera plus précisément un préquel.
Une préquel, voilà.
De plan fixe.
Et donc, en gros, calme-toi, Julien.
Long.
En fait, le truc, c'est que pour moi, le cinéma d'horreur, ça peut être un cinéma émotionnel. Et c'est même, en fait, tout le problème, c'est que ça fait maintenant presque 20-30 ans, en fait, que c'est plus considéré comme ça, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, un film comme La Mouche, par exemple, pour prendre un grand classique, c'est un film d'horreur pur et dur. Mais c'est aussi une tragédie. C'est aussi en fait un opéra monstrueux. C'est aussi en fait tout un tas de trucs dans lesquels en fait tu catégorises pas le truc par horreur. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme de l'horreur, c'est soit Jason Blum, soit Conjuring, soit et il y a des vagues sauts, ça revient. Bon bref. Donc en fait, le truc c'est que et là-dedans en fait, on se retrouve avec des films qui traitent ouvertement de la mort, puisque c'est le principe en fait du cinéma d'horreur, mais qui ne traitent pas de la perte, du deuil, de toutes ces choses-là en fait. Donc du coup c'est fun en fait, c'est la mort fun, c'est la mort en fait, tu vas, tu rentres dans le film, tu t'amuses dans le truc, c'est Destination Finale, tu ressors et c'est fini. Sauf que tu vois, des concepts comme Destination Finale ou des concepts comme Last of Us, quoi, en fait, tu peux avoir appliqué des traitements similaires en fait, bien fondamentalement. Sûr, hein. Et c'est pour ça que j'ai du mal à attaquer un film comme Last of Us en fait. Pas Last of Us, pardon, Sans un bruit, toi, j'ai du mal à attaquer en fait, si tu veux.
Lapsus intéressant. Ouais,
c'est un lapsus, mais j'ai du mal à attaquer en fait un film comme Sans un bruit sur ce genre de choses parce que il essaye ça.
Mais pour
dans
moi,
le genre de l'horreur.
Pour moi, c'est pas une attaque, hein. C'est vraiment une question dans la mesure où je trouve que c'est un film de tension et dans lequel je suis tendu, mais j'ai jamais peur en regardant ce film-là. Ce qui est quand même un fondamental.
Il y a 2-3 jumpscares, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose d'horrifique.
C'est, oui, mais voilà. Puis en plus, le jumpscare, c'est vraiment le degré zéro de comment faire peur au cinéma. C'est tu balances un chat sur un écran, quoi. C'est,
ouais, le truc après, c'est qu'en tout cas, le problème, c'est que j'ai pas cité La Mouche ou des trucs comme ça pour. C'est-à-dire que, en fait, comme le dit Marie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là où t'es intéressé. Alors moi le film, je l'ai un peu oublié parce que je l'ai vu il y a un an.
Toi, tu as la chance de le voir.
En fait, c'est le dernier film que j'ai vu juste avant le confinement l'an dernier, et parce qu'il devait sortir
juste,
à ce moment-là.
Juste pour rappel, le confinement a été le 17 mars et le film devait sortir le 18 mars.
Voilà, et en fait, je l'ai vu donc là, juste la semaine d'avant, et du coup, ils ont annulé la sortie et c'est ce qui s'est passé, quoi. Du coup, je l'avais vu à ce moment-là. Donc je n'ai pas revu le film pour les besoins du podcast là, donc je marche un peu sur mes mémoires, mais de mémoire le truc pourquoi je parlais de constance parce que fondamentalement les défauts et les qualités en fait du film sont pour moi les mêmes que celles du premier en fait, c'est-à-dire que en gros si ce n'est peut-être que tu pourrais avoir un élément de surprise qui a disparu puisque on va dire que le sacrifice du père à la fin du premier ça pouvait être quelque chose d'assez défaut d'être inattendu, en tout cas émotionnellement ça pouvait fonctionner, ça pouvait être fort quoi. Moi je trouve, je suis pas hyper emballé par le truc, mais je peux comprendre qu'on puisse être touché par le truc parce qu'il y a un vrai relationnel qui est travaillé, qui est traité. Là c'est peut-être un des trucs qui manque dans ce film là, mais par contre en fait dans les problématiques que j'ai, c'est que moi je viens du cinéma d'horreur en fait qui essaye de mettre en scène justement ces créatures, son univers, c'est la trouille que c'est censé générer. Et là, tu vois qu'en fait, effectivement, il y a ce truc avec la gamine qui est sourde où tu peux jouer avec cette mise en scène, tu peux jouer avec cette perte du sens, etc., etc. Mais en fait, le problème que j'ai, qui était dans le premier film, et qui est là, pareil, flagrant, encore plus même, j'ai envie de dire, presque dans celui-là, c'est que la mise en scène s'arrête là où le sound design commence, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, pour un film qui s'appelle Sans Abri ou A Quiet Place, tu vois, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, quoi. Et en fait, c'est tout mon problème, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais aimé qu'il y ait ces plages de silence, en fait, elles t'induisent, en fait, elles te mettent dans une ambiance, en fait, hyper mortifère, où tu te dis, putain, ça va attaquer quand, en fait ? À quel moment moi en tant que spectateur je vais me faire agresser par ce qui est en train d'arriver au personnage en fait, et parce que c'est de l'immersion, c'est de l'implication immersive en fait, et bah ça marche pas parce que en fait ça devient, c'est là où ça devient une espèce de roller coaster, et c'est dommage parce que tu sens de la bonne volonté, tu sens du cœur, tu sens qu'il a envie en fait d'essayer de faire ça.
Moi, il y a un truc que je trouve intéressant là-dessus, c'est un mécanisme de l'horreur que Carpenter fait probablement l'un des mieux au monde, c'est l'utilisation du scope en disant « Ok, en fait, je vais laisser beaucoup d'espace vide dans mon cadre », ce qui fait que automatiquement, toi qui es un habitué ou un amateur de films d'horreur, tu vas attendre le danger et tu vas le chercher. À la limite, tu regardes plus le premier plan, tu regardes l'arrière-plan. Et étonnamment, Krasinski fait beaucoup ça. Il y a énormément de plans assez larges avec des portes, des ouvertures où tu fais « Ok, le danger va arriver de là ». Et c'est là que je te rejoins, Marie. C'est, en fait, il l'exploite très, très peu. Il y a cette scène du train dont tu parlais. Là, il va utiliser le flou, qui est une super idée. Et tu dis « Qu'est-ce qu'il va en faire ?» Bah, il en fait pas grand-chose. Il fait juste un cut à ce moment-là.
Du coup, il y a pas de, c'est pas jusqu'au boutiste en fait dans cette démarche. Et le problème en fait, c'est que aujourd'hui, on est dans un cinéma d'horreur tellement codifié. Enfin, je veux dire, c'est le problème du cinéma d'horreur. Hein. Le cinéma d'horreur, pour moi, hein, c'est un genre hyper noble dans le sens où c'est les films les plus durs à faire, je pense. C'est-à-dire que vraiment, parce que la trouille, en fait, c'est quand même un truc qui est très personnel aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont avoir peur de certaines choses et d'autres non. Et en fait, en gros, comment tu arrives à faire finalement un vrai film d'horreur qui fout la trouille ? C'est-à-dire que contextuellement, par exemple, dans les années 70, un truc comme L'Exorciste. Moi, je continue à considérer que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais toutes les générations actuelles, en fait, qui découvrent le film avec cette aura-là, en fait, ils sont là en train de dire « mais ça marche pas, en fait ». C'est plus drôle que parce que ça a été parodié dans Scary Movie, parce que j'en sais rien. Enfin, il y a tous ces trucs qui font que, apparemment, ça fonctionne plus. Par contre, Paranormal Activity, ça fonctionne, alors que... Et moi, je pense que l'explication, elle se fait parce que, tout simplement, en fait, on parle d'une génération qui a grandi avec YouTube et qui, d'un seul coup, en fait, le point de vue du réel... C'est-à-dire le truc qu'ils peuvent, c'est-à-dire c'est d'un seul coup, c'est comme si c'était filmé comme dans une vidéo YouTube, mais en fait tu fais rentrer le surnaturel, l'horreur là-dedans, et du coup en fait ils ont un point d'entrée de comparaison qui fonctionne. Là, on est dans un film en fait dans Sans un bruit qui veut utiliser la mise en scène du cinéma en fait, c'est-à-dire pour, et ça c'est louable, tu vois. Mais du coup ça passe pour de la grande mise en scène, ben, j'ai envie de dire, tu vois, alors que ça ne l'est pas justement, c'est ça mon problème, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné tu te dis, alors tu vois, t'as cité Jurassic Park. Mais pour moi, la scène d'ouverture, c'est Jurassic Park. C'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est... Alors, je vais prendre Spielberg, je vais prendre les trucs où, en fait, je vais utiliser des points de vue, etc., etc. Et mais il n'a pas retenu la leçon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, OK, tu peux le faire. C'est-à-dire comme dans un blockbuster. Tu peux faire une scène de blockbuster, ça se voit. Tu vois, t'as un peu plus de budget, t'as un peu plus de machin. Mais là, pour le coup, la scène, pour moi, je suis littéralement extérieur au truc. Je suis d'autant plus extérieur au truc que le personnage principal de cette scène, c'est un personnage que tu sais qu'il ne va pas mourir dans cette scène. Donc du coup, en fait, j'étais en train de me dire, ok, c'est spectaculaire, ça fonctionne d'un point de vue spectaculaire, mais ça, pour le coup, c'est pas du cinéma d'horreur. C'est vraiment, en fait, du blockbuster. Et c'est pas un genre, le blockbuster, mais ce que je veux dire,
c'est pour ça que je disais
ça.
Cinéma de tension, même si fondamentalement, c'est pas un genre en soi qui existe. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant le film, c'est que en permanence, j'avais... tu ressens des petits frissons, c'est sympa, mais il n'y a pas de moment où tu fais « Oh non, non, pas ça. » Ce sentiment-là, tu l'as pas. Mais
et t'as jamais peur pour les personnages, en fait, tu vois, parce que je trouve que l'identification marchait un petit peu quand justement t'as ce côté où il n'y a plus le son et tout, où tu t'identifies un peu à ce personnage de jeune fille sourde. Mais en fait, c'est ce que tu dis, t'as jamais peur pour eux. Et c'est ça, moi, à chaque fois, j'ai une petite tension. Je me dis « Ah, il va se passer un truc », et puis ça retombe à chaque fois. Et du coup, je reviens sur mon mot « frustration », qui est vraiment le résumé du truc. Et j'aurais voulu, moi, qu'on m'en donne beaucoup plus, quoi.
Et après, il y a ces trucs que je trouve assez étranges, finalement, en fait, dans cette suite, pour le coup. Mais c'est un problème structurel qui était déjà dans le précédent par certains aspects, en fait. C'est que le personnage, quelque part, le personnage, entre guillemets, principal, en tout cas, celui qui a un arc narratif, c'est le personnage de la petite fille, enfin, de la jeune fille, quoi, et de l'adolescente. Et en fait, t'as envie de dire, mais il était résolu, entre guillemets, cet arc-là, en fait, dans le précédent.
Oui, donc, et non. Oui et non, parce que je trouve qu'il y a il y a quelque chose... En fait, je trouve qu'ils ont vraiment construit, pour le coup, c'est de se dire, le premier film, même si, une fois de plus, je vous rejoins sur le côté, c'est pas emmené jusqu'au bout, mais sur le premier film, il y avait cette relation père-fille avec la fille qui s'en voulait, parce qu'elle était persuadée que c'était à cause d'elle que le petit était mort, le père qui n'arrivait pas à ne pas lui en vouloir, même s'il aimait quand même sa fille, qui est quelque chose de fondamentalement très beau. Et quand ils sont arrivés à cette résolution en disant, en fait, non, mais je t'ai toujours aimé, n'aie pas de doute par rapport à ça, c'est plutôt beau et ça emmène le film sur un territoire de satisfaction. Et dans ce deuxième épisode, en fait, elle va petit à petit apprendre à ne plus s'en vouloir, à s'accepter et à se rendre compte qu'elle est comme son père. Et on lui dit texto, c'est vrai, donc du coup, ça manque peut-être un petit peu de subtilité. Mais l'arc, il est là et il y a, à la fin, elle devient quelqu'un de plus fort qu'au début.
Sauf
du film.
Que je spoil un petit peu.
C'est pas ton genre.
Permettre, tu vois, c'est en fait une image qui renvoie littéralement à la scène de sa mère dans le premier. Et en fait, du coup, le film se termine plus ou moins de la même manière. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu étrange. Je trouve de...
Là, tu parles du dernier plan.
Ouais.
Du
dernier plan.
Ouais, je parle. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est que un film, il est important là où il se termine aussi. J'ai envie de dire. Et c'est-à-dire que là, en fait, pour le coup, le mec, il se dit, attends, mon film, mon histoire, ce que j'ai raconté, se termine là, bam, tu vois. Et là, tu vois, c'est le truc avec le fusil, et puis voilà. Et du coup, tu te dis, mais c'est la même scène que le précédent.
Je suis pas d'accord, il y a quelque chose de différent aussi, parce que non seulement il y a la progression de la fille dans sa propre histoire, mais le fils aussi, qui est cette espèce de gamin qui a peur de tout en permanence et qui va petit à petit gagner en courage. Et à la fin, c'est lui qui protège sa mère. Finalement, pour moi, c'est un film qui parle plus de l'évolution des enfants et de comment ils apprennent à devenir autonomes,
en tout cas,
à se protéger. Et voilà, dans le premier film, c'est les parents qui protègent leurs enfants. Et là, c'est l'inverse, finalement.
Mais dans le premier, moi, je trouvais que la scène de fin tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, le personnage de la mère n'était pas du tout développé comme ça. En fait, c'était plutôt, elle était plutôt en retrait, plutôt dans le deuil de l'enfant, et puis dans ce qui est logique aussi, elle était préoccupée par la grossesse et l'enfant à naître et tout. Et du coup, moi, ce dernier plan, j'avais pas du tout aimé ce dernier plan final, où elle est en train d'armer son fusil à pompe ou je sais pas quoi, comme si c'était une warrior, alors que pendant tout le film, c'est pas du tout ça. Et là, du coup, je trouve plus logique cette évolution-là des deux enfants, et notamment de cette jeune fille qui, elle, du coup, a un vrai chemin. Et un vrai, littéralement, elle a un vrai parcours dans le film.
C'est
en fait.
Surtout que de mémoire, si je me souviens bien, alors c'est un petit peu flou, mais en fait, ce qui était très étrange dans la scène finale du premier, c'est qu'en fait, d'un seul coup, on utilise un fusil à pompe.
Bah, oui, enfin, ça s'explique. Enfin, pour moi, en tout cas, ça s'explique.
Parce que dans le 2, ça s'explique avec
raisons.
La station de radio. Mais...
La première, c'est que ses enfants sont en danger, donc du coup, elle passe en mode louve, elle va protéger ses enfants, ce qui se comprend. Donc du coup, elle arme son shotgun, même si le plan est fait un peu genre effectivement
mais
warrior.
Mais le plan il fait vraiment hyper iconique, alors qu'en fait c'est pas ça le personnage.
Mais
quoi.
Par contre, et l'utilisation du shotgun, c'est tout simple, hein. C'est justement, c'est en fait tu disais tout à l'heure Clémence que le film recommençait à la seconde près, et en fait pas tout à fait. Ils ont juste coupé un petit truc, c'est que le film se terminait sur parce qu'elle a donné un coup de fusil à pompe qui a été permis parce qu'en fait vu que le truc il a la tête de traviole. On peut lui tirer au fusil à pompe dessus, mais ça attire les deux autres qui sont dans la région. Et ça, c'est cette petite ellipse-là qu'ils ont faite. Donc il y avait un combat qui allait s'en suivre qu'on ne voit pas.
Oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, c'est pas traité. C'est la vraie problématique que ce qui est fait à la fin du premier, le bruit qu'il faut surtout pas faire, il faut pas lâcher une caisse, alors tirer un coup de fusil, je suis désolé, voilà, tu vois.
Ça attire les autres, voilà, mais par contre, quand ils les attirent, ils peuvent les arrêter grâce à ce petit appareil. C'est traité.
Oui, mais sauf que ça fait partie de la problématique, en fait, en gros, où voilà, à un moment donné, en fait, on crée un monde avec des règles qu'on ne suit plus, parce que, mais c'est pas grave, parce que c'est la fin du film. Et,
on les suit. On te dit, maintenant qu'on a ce petit appareil, quand ils arrivent, on peut les empêcher de nous attaquer et donc se défendre.
Oui, c'est juste
donc
que tu tournes à fond là, le volume de son appareil auditif qui fait qu'ils ouvrent leur espèce de gueule horrible et c'est là que tu peux leur tirer dessus. Donc c'est un peu encore une mécanique de jeu vidéo où tu sais, tu lances un truc qui fait diversion et tu peux lui tirer dessus, en fait.
Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la suite, hein, puisque globalement, c'est de se dire maintenant comment on peut faire que ce petit appareil ne protège plus seulement la famille Abbott, mais la région à défaut du monde entier. Calmons-nous.
Pour conclure, ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas ?
Ah oui, moi je dis oui. Je trouve que quand même, enfin voilà, moi je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais toi, Julien, tu vois le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide. Je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais il y a beaucoup de choses qui sont réussies, et c'est quand même, moi, un film d'horreur qui me fait ressentir plus de choses que le tout venant de la production horrifique actuelle, quand même.
Et je suis d'accord, moi je le conseille absolument, parce que, pour être un peu négatif pour le coup, j'en ai marre de voir des trucs au cinéma qui me font hausser les épaules. Et ce film-là me fait pas hausser les épaules. Ce film-là, il me donne un sourire, il me file la patate. Je suis content de voir cette héroïne se lever à la fin et devenir une héroïne. Je suis content de voir les situations aller jusqu'au bout. Enfin bref, j'ai fini content, quoi.
Stéphane.
Si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Pour le coup, c'est vraiment constant, hein. C'est-à-dire que mais le film l'est, en fait. Je pense que c'est l'adding suite du premier film. Donc, si vous avez aimé le premier film sans réserve, vous pouvez y aller sans réserve. Si vous avez des réserves, vous aurez toujours des réserves. Et puis, si vous n'avez pas aimé le premier film, vous n'aimez pas le deuxième film, à mon avis, hein. Donc, voilà.
Je pense que c'est absolument.
Ouais, ouais. Pour une fois, on est tous d'accord.
Et on le rappelle, hein, si vous avez aimé le premier film, que peut-être vous avez déjà vu le second, sachez qu'un troisième volet sortira le 31 mars 2023. Un nouveau chapitre inspiré par une idée de Krasinski, mais qui sera écrit et réalisé donc par Jeff Nichols et qui devrait constituer une préquelle au film original de 2018. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous avez adoré ? Vous avez détesté ? Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, rendez-vous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nomadland, le film multi-oscarisé sur les nomades américains des temps modernes. Alors Alain, est-ce que ce changement de registre a déstabilisé nos auditeurs ? C'est vrai qu'on s'éloigne pas mal des films de genre qu'on traite habituellement, donc je suis impatiente de découvrir les messages de notre répondeur. Allez, dis-nous tout, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Salut Capture Mag, merci pour cette critique de No Man's Land. Merci à Julien de sa confession de foi avant de se lancer dans la critique du film. Chloé Zhao, vous, selon moi, passez à côté d'un truc important, c'est quand même quelqu'un qui est quasi dans le documentaire aussi. Du coup, moi, j'ai adoré The Rider, moins No Man's Land, parce que pour moi, en termes de point d'accroche, comme vous dites fréquemment, j'en ai pas essentiellement à cause du personnage de Frances McDormand, qui transmet malgré tout pas grand chose. Et pour terminer, je trouve que c'est un film sur le deuil, en fait, qui traverse comme ça toutes les images et tout l'embryon d'histoire qui est là. En tout cas, longue vie à Capture Mag, bravo, et continuez à nous régaler. Ciao.
Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve après-demain pour une émission qu'on a enregistrée il y a un petit moment maintenant, c'était au mois d'octobre, hein, c'est la toute première émission qu'on a enregistrée. On y parlait du film La Nuée, on découvrira donc ça vendredi. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.